Bonjour professeur Anne-Claude Crémieux.
Bonjour.
Vous êtes professeur de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis de Paris, également auteur du livre « Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, SRAS et crise sanitaire » paru aux éditions Lavoisier. Et dans un instant, nous serons en ligne avec le professeur Frédéric Adnet, qui est chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne et du SAMU de Seine-Saint-Denis. Fermeture donc depuis hier soir des restaurants, des cafés, des cinémas, des discothèques. De tous les commerces, à l'exception des magasins alimentaires, des pharmacies et des banques, est-ce que la professeure de maladies infectieuses que vous êtes est plus confiante ce matin? Enfin, des mesures à la hauteur de la crise sanitaire en France?
Alors, effectivement, je pense que c'est très important. Ces mesures, on les attendait. On sait qu'elles sont efficaces lorsqu'elles sont prises suffisamment tôt, lorsqu'elles sont complètes et suffisamment durables. On a des exemples récents. La Chine qui a réussi à faire baisser de 90% le nombre de nouvelles infections.
Je fais une parenthèse. On peut avoir confiance dans ce que raconte la Chine en ce moment?
Oui, absolument. On peut avoir confiance. Il y a une équipe d'experts de l'OMS qui en revient et qui a constaté qu'effectivement, c'était la réalité. Il y a effectivement une baisse de 90% des nouvelles infections en Chine.
C'est parce que la barrière a marché.
La barrière a marché. Les mesures, l'ensemble des mesures qui ont été, il faut le dire, assez spectaculaires, ont permis de freiner la diffusion du virus avec un résultat qui est impressionnant, qui est d'autant plus impressionnant que on n'avait pas de preuves au départ que ça allait marcher. Et peu de gens pensaient que ça allait marcher, et ça a marché.
On aurait peut-être dû moins résister à la minimisation jusqu'à présent, non?
Vous voulez dire
en France?
En France.
Alors, en France, on pourra toujours revenir plus tard, je pense, hein, sur l'histoire, la chronologie des mesures qui ont été prises. Je crois qu'aujourd'hui, il n'est pas temps, si vous voulez, de tirer les leçons, parce qu'on n'est pas capable de le faire. Ce n'est que rétrospectivement, dans 2 ou 3 mois, qu'on pourra comparer l'attitude des différents pays et voir quelles ont été, au fond, les prises de position, les décisions politiques les plus efficaces.
Alors, en France, qu'est-ce qui justifie, depuis hier soir, cette nouvelle salve de mesures encore plus restrictives que celle annoncée il y a seulement 2 jours, hein, par Emmanuel Macron?
Ces mesures n'ont d'intérêt que si elles sont complète. C'est-à-dire si vraiment on arrive à ce que les gens restent chez eux, qu'ils ne sortent un seul par foyer que pour aller faire les courses essentielles. Et ce qui a été effectivement constaté, c'est que le premier discours du président n'a pas suffi à faire prendre conscience aux personnes qu'il fallait effectivement passer dans un mode de vie complètement différent. Il faut dire encore une fois que c'est la première fois, que c'est vraiment spectaculairement une situation totalement nouvelle pour tous les citoyens.
Mais ce qui inquiète particulièrement les scientifiques depuis jeudi dernier, c'est quoi? C'est l'augmentation importante des formes sévères de contamination. C'est ça qui a déclenché deuxième vague?
Absolument. On est depuis plusieurs jours maintenant dans une accélération extrêmement nette de l'épidémie, avec le risque qui a été tout à fait explicité par les Italiens, c'est que il y a un risque énorme qui est l'engorgement des hôpitaux et en particulier le fait que on ne puisse pas avoir suffisamment de lits en réanimation pour prendre en charge les patients les plus graves.
Eh bien, on va en parler justement avec notre invité en ligne, le professeur Frédéric Adnet. Bonjour professeur.
Bonjour.
Le personnel soignant est encore une fois en première. Je précise que vous
première
êtes.
Ligne.
Je précise qui vous êtes. Vous êtes le chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne et du SAMU de Seine-Saint-Denis. Le personnel soignant donc est encore une fois en première ligne, en tension permanente, hein, depuis plusieurs semaines. Quelles sont désormais vos marges de manœuvre, professeur Adnet, pour accueillir cette prochaine vague de patients?
Tout à fait. Hein, on se prépare à accueillir un véritable tsunami de patients et comme l'a rappelé mon confrère, de patients qui ont des pathologies graves, qui nécessitent non seulement des soins continus, mais pour la plupart des lits en réanimation. Nos structures de soins sont mises vraiment à l'épreuve dans le Grand Est de la France, avec une saturation des services de réanimation et des services de soins. Ben écoutez, nous, à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, on applique le plan blanc niveau 2, c'est-à-dire que la grande majorité des activités programmées pour des soins non urgents ont été déprogrammées. Dans mon hôpital, on mobilise tous les lits disponibles qui sont libérés par cette déprogrammation.
Vous avez peur de manquer de lits ?
Alors ça, l'avenir va nous le dire, mais pour l'instant, nous ne sommes pas saturés. Nous avons environ, au niveau de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, une centaine de patients en réanimation. Nous avons encore 160 lits de disponibles et nous allons monter en puissance pour libérer encore une autre centaine de lits de réanimation. Donc on se prépare avec l'expérience de nos collègues de l'Est de la France qui ont montré que c'était véritablement un raz-de-marée qui risque de nous arriver. Nous avons beaucoup d'hôpitaux en Île-de-France. Et ben écoutez, tout dépend de la hauteur de la vague qui va arriver.
Alors Frédéric Adnet, vous avez fait partie des 70 directeurs médicaux qui ont signé il y a quelque temps la fameuse tribune dans le journal Le Monde pour dénoncer un point de rupture irréversible de l'hôpital. On a envie de dire l'hôpital n'avait pas besoin de cela.
Ah, absolument, l'hôpital public est absolument fragilisé par manque de personnel, par des fermetures de lits, et cette analyse, on l'avait en situation normale. Ici, nous sommes maintenant en situation de crise sanitaire. Donc, bien sûr que c'est tout ce que l'on a dénoncé à l'époque est toujours valable. L'hôpital est fragile.
Des infirmières.
On va être obligé de faire face à ce nouveau challenge avec des moyens restreints. Mais on va dire que, le côté politique, on va le laisser tomber. Maintenant, on a vraiment une véritable guerre à engager et on doit mobiliser toutes les ressources de l'hôpital et en particulier tous les lits que nous avons pour les soins programmés pour faire face à cette épidémie.
Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez, par exemple, suffisamment de masques pour parler un peu concrètement de quoi avez-vous besoin? Les masques, vous les avez aujourd'hui?
Alors, on a les masques, on a des lits disponibles en Île-de-France, on est en train, si vous voulez, de réorganiser les services, par exemple les services d'urgence, on est en train de les agrandir et de les couper en deux, avec une zone pour accueillir les patients Covid suspects et une zone pour faire les urgences normales. On ferait ça au niveau de tous les services. Si vous voulez, l'hôpital se met en ordre de bataille. Alors bien sûr, je suis conscient que l'hôpital public est en mauvaise santé, mais c'est pas trop le problème. On va prendre tout ce qu'on a et le mobiliser. On a des masques, on a des solutions hydroalcooliques, on a des respirateurs. Donc on va pas affoler la population. Le seul avantage que l'on a, c'est qu'on a un petit peu de temps pour se préparer. Mmh. Et surtout, on va profiter de l'expérience de nos collègues de l'Est, d'Italie et maintenant
donc
d'Espagne.
Un message plutôt rassurant que vous nous communiquez
ce matin.
C'est pas
une médecine de guerre comme une médecine de tri.
Va être une médecine, ce qu'on appelle une médecine de catastrophe. Hein. Ouais. C'est-à-dire que la catastrophe sanitaire, elle est définie par le fait que les structures hospitalières ne peuvent plus répondre à la demande.
Et il va falloir trier selon les priorités. Elles se feront en fonction de quoi, les priorités ?
Alors, je pense pas qu'on n'en est pas encore au point d'avoir le débat éthique de nos collègues italiens de choisir les patients qui iront en réanimation ou qui n'iront pas. Mm-hmm. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on a des lits de réanimation, on peut accueillir les patients. Et effectivement, ce qu'on craint énormément, c'est d'une part que les personnels soignants soient impactés par cette maladie et qu'on manque de personnel pour accueillir les patients. Et d'autre part, qu'on arrive à être submergé et de devoir faire ses choix éthiques. Mais on n'en est vraiment pas là. À l'inverse de nos collègues italiens, on a eu du temps pour se préparer. Moi, dans mon hôpital, toutes les activités programmées ont été déprogrammées, sauf pour l'oncologie, bien sûr, et l'hématologie, pour donc des spécialités qui ne peuvent pas attendre. Nos blocs opératoires ne fonctionnent que pour les interventions urgentes. Donc, voilà. Et tout va dépendre, si vous voulez.
Professeur Adnet, oui. Une dernière question à propos des 17 médecins qui ont signé une tribune hier soir sur le site Atlantico pour réclamer un report des élections municipales. Pensez-vous comme eux que cette concentration d'électeurs aujourd'hui et dimanche prochain est, du point de vue sanitaire, une ineptie ?
Pour moi, c'est complètement incompréhensible. Hein. Je n'ai aucun parti pris politique, mais d'annoncer en même temps que tous les bars et les commerces vont fermer et que en même temps tous les Français vont se rendre dans des lieux de vote, pour moi c'est parfaitement incompréhensible, et ce d'autant que dans 15 jours on sera probablement à l'acmé de la crise, et je vois mal comment on pourra faire un second tour.
Merci.
Donc c'est parfaitement incompréhensible.
Merci professeur Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne et du SAMU de Seine-Saint-Denis. Professeur Anne-Claude Crémieux, je voudrais vous faire part du cri d'alarme d'un de vos collègues ce matin dans le journal du dimanche, Éric Combe, infectiologue. J'ai peur d'un tsunami, et on lira dans le JDD également les estimations du nombre de décès potentiels qui sont fournis régulièrement à la Direction Générale de la Santé. L'hypothèse basse qui circule aujourd'hui, elle serait de 30 000 morts, selon ce que raconte le JDD.
300 000,
le JDD donne ce chiffre de l'hypothèse haute de 300 000 morts. Vous êtes surprise par ces chiffres, professeur Crémieux ?
Alors je pense que, bon, très honnêtement, il y a des modélisations et des prévisions. C'est pas si facile que ça d'arriver à avoir une idée précise du nombre de morts. On sait que, en réalité, ça va essentiellement dépendre de la résistance de notre système de soins. Ça a été bien montré en Chine. La mortalité était nettement plus importante à l'épicentre de l'épidémie que dans les régions avoisinantes. Donc le facteur essentiel de la mortalité, c'est l'engorgement du système de soins.
Mais c'est ce que vous dites un petit peu, pardon, ce que vous dites un peu dans votre livre, c'est que les scientifiques, d'une part, sont pris à défaut, parce qu'ils sont face à quelque chose de difficilement prévisible, et que les politiques, eux, sont désarçonnés.
C'est extrêmement difficile, effectivement, de prendre des décisions en contexte de crise sanitaire. En réalité, on prend ces décisions dans l'incertitude, un peu dans le brouillard, comme disent parfois nos collègues militaires. Donc effectivement, on l'a vu et on le voit aujourd'hui, tous les pays, que ça soit l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la France, ont eu une vraie hésitation pour passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire prendre ces mesures drastiques qui ont été annoncées en France il y a quelques jours. On voit, hier, on a vu en Angleterre le même problème, Boris Johnson hésiter. Pourquoi ? Parce que effectivement, d'un côté, il y a la possibilité de diminuer le nombre de contaminations, c'est-à-dire d'essayer de limiter l'impact sanitaire de l'épidémie, et de l'autre, il y a effectivement le coût social et le coût économique.
Mais pour être concret, pardon de vous couper, oui. Professeur Crémieux, est-ce que nous sommes ce matin en France enfin en train de prendre la mesure de l'épidémie, ou bien sommes-nous encore dans le flou le plus complet à vous entendre, avec des formes de contamination qui passent encore trop inaperçues?
Non, aujourd'hui, on a pris la mesure de l'épidémie, c'est sûr, c'est-à-dire qu'on a franchi ce fameux pas qui consiste à dire, la priorité, c'est l'aspect sanitaire.
Et de casser l'épidémie.
La priorité, c'est l'aspect sanitaire, et on va tout faire pour effectivement diminuer la transmission du virus et atténuer cette vague épidémique de façon à ne pas engorger nos hôpitaux et diminuer la mortalité.
Et y aura-t-il besoin d'une nouvelle salve, un peu comme ça se passe en ce moment en Italie, en Espagne, avec des contraintes de confinement encore plus sévères, juste pour aller à l'urgence, faire ses courses ou aller chez le médecin.
C'est clair que si on peut compter sur la responsabilité individuelle, on peut compter et il faut compter sur la mobilisation de chacun. Effectivement, chacun doit comprendre qu'il doit absolument limiter ses contacts au maximum pour que on limite la circulation de ce virus. Si la responsabilité individuelle et la mobilisation individuelle ne suffisent pas, les politiques seront peut-être amenées à prendre des mesures un peu plus directives. Ça, l'avenir nous le dira.
Un mot sur ce que l'on sait de ce virus. En France, 85% des patients auront une forme quasi bénigne. 13% connaîtront une forme plus sévère qui justifiera une hospitalisation. Et entre 1 et 2% pourraient en mourir. Professeur Crémieux, qu'est-ce que ces taux disent de l'agressivité de ce virus que l'on connaît encore mal?
Ces taux disent que ce n'est pas effectivement une infection qui est banale, une infection qui est bénigne. 15% de formes sévères, c'est beaucoup. Dans ces 15% de formes sévères, une partie va nécessiter une hospitalisation dans les lits de pneumologie avec de l'oxygène pour pouvoir bien respirer. Et même une partie de ces 15% vont nécessiter des passages courts en réanimation. On voit par exemple en Italie que le taux de personnes infectées qui a besoin à un moment donné ou à un autre d'un passage en réanimation, c'est 10%. C'est beaucoup.
Il y a un traitement. J'ai lu, je ne sais plus où, qu'il y avait éventuellement un médicament antipaludien qui pourrait éventuellement servir.
Alors aujourd'hui, la piste thérapeutique la plus intéressante, c'est un antiviral qui s'appelle le remdesivir, qui semble avoir l'efficacité la plus intéressante vis-à-vis de ce virus. Et ce remdesivir sera donné aux patients sévères.
Quand Emmanuel Macron, par exemple...
Dans le cadre d'un essai thérapeutique, excusez-moi, mais sera donné.
Quand le chef de l'État espère un traitement dans les semaines et un vaccin dans quelques mois avec les scientifiques français et européens, est-ce que c'est réaliste à vos yeux?
Le traitement, oui. Puisque effectivement il y a déjà une molécule disponible qui avait été d'ailleurs mise au point pour d'autres crises sanitaires et d'autres virus ARN, le vaccin, en étant optimiste, on pense que les premiers essais se feront effectivement dans quelques mois, mais pour qu'il soit disponible pour la population entière après avoir fait la preuve de son innocuité et de son efficacité, c'est plutôt de l'ordre de 12 à 18 mois.
En fait, ce vaccin sera éventuellement disponible, ou en tout cas la recherche sera disponible pour une prochaine vague qui risque d'arriver.
S'il y a une prochaine vague, effectivement, dans 12 à 18 mois, on peut espérer qu'on aura d'autres armes pour la contenir, et notamment un vaccin.
Hier soir, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, numéro 2 du ministère de la Santé, se disait étonné par le nombre de cas graves, notamment chez les jeunes. On a donc eu tort de penser et presque d'annoncer que les plus jeunes seraient relativement épargnés par ce Covid-19.
Alors, on savait, d'après les publications émanant de la Chine, que il peut y avoir, même chez les sujets jeunes, une aggravation de cette infection à la fin de la première semaine, et justement que à ce moment-là il y a nécessité d'un passage éventuellement en réanimation. Le directeur général de la Santé a voulu alerter sur un fait particulier, et le ministre aussi, c'est que, on le sait aussi, les infections pulmonaires d'une façon générale, et pas seulement les infections pulmonaires, d'autres infections comme les infections de la peau et des tissus mous, peuvent être aggravées si l'on prend des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et effectivement, il y a eu quelques cas qui ont été constatés d'infections de pneumonie au coronavirus plus sévères chez des sujets qui se sont automédiqués avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et donc, le conseil qu'on peut donner à nos concitoyens, c'est quand vous avez avez de la fièvre, vous ne prenez pas d'anti-inflammatoire non stéroïdien, vous prenez du paracétamol qui, lui, n'a pas cet inconvénient.
Et non, pas l'ibuprofène qui est très en cause et on le cite beaucoup depuis quelques jours. Le nombre de cas, on l'a souligné aussi hier soir avec le ministre, le Premier ministre et également le numéro 2 de la Santé. Le nombre de cas en France a doublé en 72 heures, en 3 jours. Est-ce que vous avez été surprise par cette vitesse de transmission?
C'est exactement ce qui a été observé en Italie. Il y a, avec un décalage, comme vous le savez, de 10 à 14 jours, dès le démarrage de la vague épidémique, il y a une explosion, c'est-à-dire une évolution exponentielle.
Mais est-ce qu'on a pu tirer, par exemple, des leçons du SRAS, du H1N1, voire même de la canicule, de l'ouragan Katrina? Est-ce que ça sont quand même des points de repère?
Il y a, on a tiré des leçons des crises sanitaires antérieures. Je pense que le niveau de préparation des différents pays est nettement meilleur que ce qu'il était il y a 20 ans. Et on l'a vu, la structuration, par exemple, avec l'existence de centres hospitaliers de référence capables d'accepter des malades hautement contagieux, la préparation d'une planification à l'augmentation des besoins sanitaires, tout ça fait partie des leçons qu'on a tirées des dernières crises. Mais il faut savoir, et c'est ça la difficulté des crises sanitaires, que chaque crise sanitaire est différente de la précédente. Le SRAS, on l'a maîtrisé, je dirais maintenant rétrospectivement, assez facilement par des mesures simples d'isolement des patients et de recherche et de mise en quarantaine des contacts, parce que le SRAS donnait des pneumonies sévères, facilement identifiables. Ce n'est pas le cas avec ce coronavirus, qui donne tout un éventail de symptômes, dont certains passe totalement inaperçu.
Est-ce que l'on apprend vite et encore aujourd'hui de ce virus? Qu'est-ce qu'on apprend?
Alors, on continue à apprendre. Par exemple, on sait qu'il y a des formes asymptomatiques, mais on ne sait pas précisément aujourd'hui qu'est-ce qu'elles représentent dans l'ensemble de l'épidémie. Est-ce que finalement ces formes asymptomatiques sont responsables de la transmission d'une bonne partie de l'épidémie, ou est-ce que au fond elles ne sont responsables que d'une partie minoritaire de l'épidémie? Le problème des enfants. On sait que les enfants sont moins touchés, que lorsqu'ils sont infectés, ils font des formes très peu symptomatiques. Et aujourd'hui, et à juste titre, tous les pays qui prennent des mesures importantes ont fermé les écoles. Ce n'est que rétrospectivement qu'on pourra savoir si cette mesure a l'efficacité qu'elle a lors des pandémies de grippe.
Eh bien, merci d'être venu éclairer nos lanternes, professeur Anne-Claude Crémieux, professeur de maladies infectieuses à l'hôpital
merci
Saint-Louis. Et merci encore au professeur Frédéric Adnet, qui est toujours le chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne et du SAMU de Seine-Saint-Denis. Merci à tous les deux et je renvoie les auditeurs à l'émission Questions politiques, journée spéciale de ce stade 3 décrété hier soir. Questions politiques entre 12h et 13h avec Ali Badou et Karine Bécard. Leur invité, ce sera Martin Hirsch, le président de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Merci beaucoup et bonne journée. Il est 9h moins le quart.